les autres voix de la presse.
Plus on apprend, plus on ne sait rien.
Une émission présentée par Jocelyn Perret.
On nous informe vraiment sur rien.
Bonjour, aujourd'hui donc dans les autres voies de la presse, nous recevons Nicolas. Bonjour Nicolas.
Et bonjour.
Donc Nicolas, toi tu fais partie d'un groupe de scientifiques qui vient de publier Cédicium. Donc Cédicium, un nouvel élément pour agiter la recherche. Donc très rapidement, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce qu'est ce projet de journal Cédicium ?
Alors Cédicium, c'est un journal dont le premier numéro vient de paraître. C'est un journal qui est principalement rédigé à Grenoble, où on a une grosse communauté scientifique, on a beaucoup d'institutions de recherche, en tête le commissariat à l'énergie atomique, mais aussi le CNRS, l'INRIA, et puis plus généralement beaucoup de gens qui travaillent dans la high-tech, dans des entreprises qui sont issus en bonne partie des laboratoires publics. Et disons que les gens qui composent le comité de rédaction de Cédicium sont tous engagés depuis plusieurs années dans des mouvements qui critiquent le rôle de ces institutions de recherche, en fait, et de ces entreprises. On identifie le fait que des institutions scientifiques qui se placent généralement du côté du bien, de la science, de la vérité, quelque chose qui serait un petit peu opposé à la barbarie, à l'obscurantisme, voire au fascisme. Ces institutions sont bien souvent en fait au service d'intérêts privés, au service d'intérêts militaires, au service de la guerre. Et en parallèle de ce constat, de cette analyse, on fait le constat qu'au sein de la communauté scientifique, il y a de plus en plus de gens qui se posent des questions à ce sujet-là, qui sont mal à l'aise avec le rôle qu'on veut leur faire jouer. C'est-à-dire que quelqu'un qui est passionné de physique ou de biologie et qui pousse un petit peu ses études, qui se retrouve à être embauché dans une institution, bien souvent même, ce qu'ils se retrouvent à faire au quotidien comme travail n'a pas grand-chose à voir avec le progrès des connaissances, l'émancipation de l'humanité, mais bien plutôt renforcer le pouvoir des dominants. Ce qui fait que quand on combine les deux, quand on se dit que ces institutions sont pas au service du bien commun et qu'au sein de ces institutions, il y a un malaise, beaucoup de gens qui sont mal à l'aise avec le rôle qu'on veut leur faire jouer, c'est à ce moment-là qu'arrive Cédicium. C'est un journal qui veut s'adresser à la communauté scientifique, ou plutôt à la partie de la communauté scientifique qui sait déjà qu'il y a un problème et que cette société ne tourne pas rond, et pour essayer de provoquer un petit peu de l'action. On pourrait dire en ce sens que c'est un journal d'agitation.
Et comment est-ce que vous vous êtes retrouvés, parce que vous n'êtes pas des scientifiques uniquement grenoblois, on voit qu'il y a des personnes qui viennent de Toulouse, de Compiègne, donc est-ce qu'il y a un mouvement en parallèle, est-ce qu'il y avait eu déjà des rencontres spécifiques qui s'étaient faites un peu à ce propos-là ?
Alors peut-être une petite clarification, moi-même je ne suis pas scientifique, je ne travaille pas dans ce monde-là. Moi, si je prends la parole, c'est en tant, on pourrait dire, que citoyen, quoi, que personne qui participe à la vie de la société et qui constate que le rôle, la place de plus en plus importante que prend la technologie dans nos vies, le fait qu'on est obligé d'être équipé de téléphone portable, d'être équipé de smartphone, de changer de smartphone tous les deux ans, d'avoir tout le temps de plus en plus recours au numérique dans tous les aspects de nos vies, et qu'en fait ces choses-là, elles tombent pas du ciel, c'est pas une évolution naturelle, c'est vraiment le résultat d'une part de recherche scientifique, mais aussi de choix politiques, de choix économiques qui sont faits par des institutions, des grands instituts, des entreprises. Et c'est à ce titre-là, en fait, qu'on prend la parole. Pas en tant que scientifique. Je l'ai dit moi-même, je ne suis pas scientifique. Au sein du comité de rédaction, les scientifiques sont loin d'être majoritaires. On a réuni autour de nous, pour ce numéro, un comité scientifique, c'est-à-dire une dizaine de personnes qui ont des responsabilités au sein de l'université, que ce soit en sciences dures ou en sciences sociales, et qui sont là un petit peu pour nous épauler. Et leur nom figure dans le journal. C'est à eux que tu fais référence quand tu dis ça. C'est pas ces personnes-là qui ont rédigé le journal. Le comité de rédaction, c'est différent du comité scientifique. Alors après, pour répondre plus directement à ta question, est-ce qu'il y a un mouvement? Ce qu'on voit surtout, c'est qu'il y a surtout un mouvement de diffusion de ces technologies. Il y a quelque chose de très fort dans le fait qu'on est de plus en plus contraint quotidiennement à utiliser les nouvelles technologies. Par contre, c'est vrai qu'en parallèle, ce déferlement technologique, il occasionne tout un tas de mouvements de refus. En général, ça s'exprime pas trop au sein de la communauté scientifique. La communauté scientifique, ces dernières décennies, semblait très soudée autour de l'idéal qui est vendu et qui correspond à l'idée de la science, quoi. La science avec une majuscule, la science qui est du côté, comme je le disais tout à l'heure, de la vérité, du bien, on développe des connaissances. Qui pourrait être contre le développement de connaissances? Si on est contre le développement de connaissances, bah, c'est qu'on est pour l'obscurantisme, le retour à un âge de ténèbres, etc., etc. Il y avait un consensus assez fort au sein du monde scientifique, mais ce qu'on a pu constater ces dernières années, je ne saurais pas le dater avec précision, on va dire ces 10 dernières années, c'est que de plus en plus, au sein de l'institution, au sein du monde de la recherche, au sein du monde des ingénieurs, ça se fissure. Il y a l'exemple, enfin, je vais juste en donner un. Il y a le collectif qui s'appelle Scientifiques en Rébellion, qui existe depuis peut-être 5 ans, je dirais, en France, et qui est constitué de scientifiques qui se posent des questions, qui sont en désaccord avec les orientations majoritaires de la recherche. Mais le mouvement dont on pourrait parler, il est bien loin de se réduire à Scientifiques en Rébellion. C'est simplement que notre société, qui est vraiment en voie de durcissement, avec d'une part la crise environnementale, le réchauffement climatique, donc la sixième extinction de masse des espèces, plus en termes vraiment social, là, un durcissement, une sorte de fascisation, de brutalisation du débat public, de répression des mouvements sociaux sans précédent. Cette société-là, elle se base sur plusieurs institutions pour tenir, évidemment, mais comme là, les annonces du président Macron, il y a quelques jours, l'ont montré, où il annonçait encore 1,5 milliard de subventions en soutien à la filière du quantique et des semi-conducteurs, c'est-à-dire que pour une part non négligeable, c'est de l'argent qui va ruisseler sur Grenoble. L'institution scientifique, en fait, c'est pas seulement quelque chose de neutre, d'objectif, qui concourrait à l'émancipation de l'humanité, c'est aussi en fait des institutions bien réelles qui sont là pour consolider les pouvoirs existants et pour renforcer les pouvoirs, les hiérarchies tels qu'ils sont. Quand on parle là de semi-conducteurs ou de quantique, le quantique, alors s'il y a des auditeurs qui sont fans de science-fiction ou voilà, ils connaissent bien la physique quantique, mais en fait là, quand Macron finance le quantique, c'est pour développer des ordinateurs extrêmement puissants qui seront utilisés principalement d'ailleurs pour des applications militaires. Idem pour la filière des semi-conducteurs, c'est des intérêts industriels très puissants qui sont en jeu, et les scientifiques qui travaillent dans tous ces domaines-là voient bien, en fait, j'allais dire les mensonges, c'est-à-dire qu'on sait bien qu'il y a une société inégalitaire, une société basée sur la domination, comme est la nôtre, elle ne se maintient pas uniquement avec la force des flics qui sont là pour taper sur les mouvements sociaux quand il y en a, elle se maintient aussi avec une bonne dose de propagande, d'idéologie, tout un discours qui est là pour enrober ce qui se passe d'un vernis de justification. Et beaucoup de gens n'ont pas eu besoin de nous attendre pour se rendre compte des problèmes sociaux et de tout ce vernis idéologique. Nous, ce qu'on tâche de faire avec ce journal, c'est de remettre des mots là-dessus, parce que plein de gens sont isolés, en fait. Quand on est scientifique, mais ça vaut d'ailleurs pour d'autres métiers, quand on est tout seul dans son boulot avec ses convictions et qu'on a l'impression que la société tourne pas rond et que le boulot qu'on fait, la tâche qu'on fait au quotidien, même si elle paye notre loyer et d'autres choses par-dessus, hein, dans le cas des scientifiques, même si en fait cette tâche elle concourt à notre subsistance quotidienne, en fait elle va contre ce qu'on estime juste, moral, digne, contre l'idée qu'on se fait d'une société décente. Quand on est tout seul à le penser dans son boulot, des fois on est content de tomber sur un journal distribué dans la rue et qui met des mots sur ce qu'on pense. J'ai l'impression que ça, on l'a assez bien réussi. Et ce qu'on aimerait aussi réussir à déclencher, c'est que tous ces gens qui ont des idées sur la marche du monde et qui pensent que leur travail ne permet pas à la société d'avancer dans le bon sens, non seulement se sentent moins seuls, mais même enclenchent des actions pour essayer d'entraver la marche de cette machine. On pourrait faire un petit peu le parallèle avec le mouvement contre les OGM qui a eu lieu il y a 25 ou 30 ans, autour de 1998, où tout un tas de gens avaient fait des actions contre la filière des organismes génétiquement modifiés et avaient détruit des plantations en plein air, des plantations expérimentales ou des serres de recherche. Et un des inculpés d'un de ces procès, qui s'appelle René Rizel, avait déclaré que le temps perdu pour la recherche, c'est du temps gagné pour la conscience, et qu'il espérait que par ses actions et par ses discours, la conscience de la catastrophe en cours progresse plus vite que la catastrophe elle-même. Voilà, je dirais que c'est quelque chose comme ça qu'on essaye de faire.
Et contrairement à des personnes qui, elles, démissionnent, je pense entre autres là, au mouvement des ingénieurs qui a eu avec, on va dire, plusieurs démissions à la suite, vous appelez pas à la démission, justement, c'est vous appelez à rester en place et à tout mettre en œuvre pour tenter d'enrayer la machine, de refuser peut-être même de travailler à certaines tâches qui vous sont confiées.
Tout à fait. Tu as raison de rappeler que le mouvement de prise de conscience au sein des ingénieurs, il s'est illustré en particulier vers 2022, il me semble, avec les déserteurs d'AgroParisTech qui disaient cette école-là qu'on vient de faire, c'est de la merde. Je résume un peu leur discours. Hein. Cette école qu'on vient de faire, c'est de la merde. Et en fait, nous, on refuse de cautionner ça. On se barre, un tel va à la ZAD, un tel va devenir paysan boulanger et un tel va devenir agriculteur. Et c'est bien plus sensé que faire toutes les tâches inutiles ou nuisibles pour lesquelles vous nous avez formés. C'est très valeureux de faire ça. Nous, on y voit une limite, hein, c'est-à-dire que Grenoble étant une ville peuplée d'ingénieurs, c'est aussi une ville peuplée d'ingénieurs déserteurs, avec tout un tas de gens qui sont partis, qui ont quitté l'université, qui ont quitté la recherche et qui ont, pour certains, ouvert des cafés-librairies, qui sont devenus charpentiers, qui sont devenus boulangers, somme toute, qui ont trouvé un travail, une activité qui met en conformité leurs pensées et leurs actes. Maintenant, le problème d'un mouvement de ce type-là, c'est que on travaille au CEA, on prend conscience que le CEA, c'est une institution nuisible, et puis on décide de partir, et comme ça, on a mis ses actes en adéquation avec sa pensée, mais pendant ce temps-là, en fait, le CEA continue à tourner. Il continue à tourner tout aussi bien qu'avant. Les gens qui sont pas contents s'en vont, tant mieux pour eux. Et elle, la machine, la méga machine, on pourrait dire, continue à avancer. Donc, on s'est peut-être mis, on a peut-être trouvé une position éthique à l'échelle individuelle, mais si ce qui nous posait problème au début, c'était que le CEA faisait de la merde, je pense que la chose réellement utile à faire, c'est essayer d'empêcher le CEA de faire de la merde. Et c'est un petit peu cette réflexion-là qu'on soulève, qu'on soumet à la discussion. On dit aux ingénieurs et aux chercheurs qui se posent des questions, ben, et si la meilleure chose à faire, c'était pas de partir, mais peut-être de rester et trouver une manière d'être le grain de sable. Le grain de sable qui fait que la machine fonctionne moins bien, le grain de sable qui fait que des informations sortent et permettent au mouvement contestataire de trouver les bonnes cibles, le grain de sable qui fait que plus de collègues se posent des questions, pas forcément en se syndiquant, enfin on a rien contre le fait de se syndiquer. Mais pas forcément en syndiquant dans le sens en ayant des revendications corporatistes, en cherchant à travailler moins, à gagner plus, à améliorer les conditions de travail. Mais ce qu'on aimerait contribuer à développer, c'est l'existence en interne de ces institutions scientifiques d'une contestation radicale de leur existence. Et d'une contestation radicale de leurs orientations, de leur production, parce que bien souvent, bah voilà, les gens qui contestent radicalement l'existence d'une institution ou alors ce qu'elle produit, ils sont placés à l'extérieur, quoi. On peut aller manifester aux portes des usines en disant, ah, ce qui se fait là-dedans, c'est vraiment pas bien. Tout en ayant finalement qu'une appréciation un petit peu extérieure, on scande des slogans qui vont, quelle que soit leur justesse, en fait, qui vont pas parler aux travailleurs de l'intérieur des usines, puisque bah, eux, ils sont pris un petit peu dans un autre monde. Alors qu'en fait, bah, si on arrive à allier les gens qui sont à l'extérieur, qui sont pas de ce monde-là, quoi, qui sont simplement des citoyens révolté par ce qui se passe, à allier ça avec aussi des scientifiques à l'intérieur, des travailleurs de l'intérieur, voilà quoi, qui sortent des infos, qui participent à des mouvements de contestation. Je pense que ça peut faire des mouvements de contestation beaucoup plus forts et qui permettent de perturber l'institution beaucoup plus que une manifestation une fois par an aux portes et puis ensuite tout le monde repart.
Pour le sujet justement, enfin les sujets abordés par Cédicium, je me demandais justement s'il n'y avait pas un peu un retour, je ne sais pas si on peut appeler ça un retour, à certaines bases développées entre autres fin des années 60, début des années 70 par Alexandre Grothendieck et le mouvement Survivre et Vivre. Là dernièrement, pour les autres voix de la presse, on avait interviewé Céline Pessis hein, qui a réédité son livre aux éditions de L'Échappée. On voit également qu'il y a le journal en ligne Science Critique. Qui lui traite de l'actualité à travers le prisme des sciences et qui est également assez critique avec entre autres une BD qui vient de paraître. Hein. On a quand même l'impression qu'il y a un retour un peu d'une prise de conscience justement des impacts de notre quotidien et de nos activités. Vous faites un peu référence également justement à Alexandre Grothendieck. C'est des mouvements dont vous vous êtes inspiré?
Bah, c'est sûr que l'exemple de Grothendieck, il est particulièrement inspirant puisque c'est ce mathématicien de génie qui a obtenu l'équivalent du prix Nobel en mathématiques et qui, au début des années, comment dire, tellement mathématicien de génie que l'État a créé un institut de recherche spécialement pour lui. Et qui s'est rendu compte au début des années 70 qu'en fait cet institut percevait une petite partie de fonds qui provenaient du ministère de la Défense, et donc les mathématiques domaine abstrait s'il en est, domaine dans lequel on a l'impression de pouvoir faire vraiment de la recherche fondamentale, quelque chose qui n'est en aucune façon relié à la réalité. Bon, bah, en fait, si l'armée met de l'argent dans un institut comme ça, c'est bien parce qu'elle espère en retirer des applications concrètes pour développer des moyens de défense. La même façon que je le disais pour le quantique il y a quelques minutes, même si c'était pas du quantique à l'époque, dans les années 70, on s'en doute. Et ben Alexandre Grothendieck, suite à ça, et puis porté par tout le mouvement écologiste, par la vague révolutionnaire qui s'était emparée des esprits à l'époque, il a arrêté la recherche. Il a dit qu'il allait arrêter sa participation à toutes ces institutions puisque ça servait l'intérêt des dominants. Et il a écrit un petit texte qui s'appelle Allons-nous continuer la recherche scientifique? Qui interpelle vraiment tous les chercheurs, tous les scientifiques sur leurs responsabilités là-dedans. Mais il n'enjoint pas réellement les individus à arrêter ce qu'ils font. Il pose le problème social du rôle de la recherche scientifique dans une société guidée par la recherche de l'intérêt privé et par la quête de la toute-puissance. Alors évidemment, nous, ça nous inspire. On a été plusieurs dans le journal ou proche du journal à participer il y a quelques années, en 2022, pour les 50 ans du texte Allons-nous continuer la recherche scientifique de Grothendieck. On a été plusieurs à participer à l'organisation d'un colloque sur la fac de Grenoble, où on a fait venir tout un tas de gens qui réfléchissent à ce sujet-là et à soulever cette question quoi avec les chercheurs de la fac, avec les étudiants, à poser la question, faut-il continuer la recherche quoi? C'est étonnant de voir à quel point les questions formulées dans les années 70 sont d'actualité. Elle l'était à l'époque avec ce qui avait marqué les esprits à cette époque-là, c'était le développement du programme nucléaire français. En 70, on est encore en pleine construction de centrales nucléaires. Aujourd'hui, il y a toujours évidemment le parc nucléaire français et les tentatives de développer de nouvelles activités nucléaires. Nous, ce qu'on voit plus à notre échelle, c'est là où le parallèle avec le nucléaire, il s'arrête. Localement, nous, on a beaucoup d'institutions tournées vers la microélectronique. On a beau avoir un commissariat à l'énergie atomique, à Grenoble, les chercheurs, ils font principalement de la recherche en électromagnétisme et en électronique. Mais en fait, comme le disait Le Monde dans un de ses articles il y a quelques mois, les semi-conducteurs, c'est-à-dire les recherches, les applications issues de l'électronique, c'est le pétrole du 21e siècle. Les semi-conducteurs, ça joue le même rôle que ce que le pétrole a pu jouer au début du 20e siècle ou le nucléaire dans les années 50, 60 et 70. C'est là où se développe toute la puissance du système à l'heure actuelle et la fuite en avant technologique à l'heure actuelle, elle se joue sur les semi-conducteurs, les ordinateurs quantiques et ce genre de choses, plutôt que, le nucléaire continue évidemment, mais ça s'articule avec ça. Relire Grothendieck à l'heure actuelle, je pense que n'importe quel scientifique est obligé de se poser des questions après l'avoir fait.
Et donc, qu'on soit clair, ce que vous critiquez, c'est surtout la mainmise, les intérêts privés et militaires sur la recherche scientifique. Vous militez, entre guillemets, pour une recherche, une communauté scientifique qui soit au service du bien commun.
Le journal, là, le numéro 1, on l'a titré « Perte de sens, armement, cochon connecté ». On n'a pas signé pour ça. Perte de sens parce que de plus en plus de chercheurs se demandent bien le rapport entre leurs grandes aspirations à la quête de la vérité et leur activité quotidienne. Armement, bah parce que en fait un très grand nombre d'activités sont tournées vers l'armement, hein. On estime qu'un tiers des financements publics de la recherche scientifique française, c'est les militaires. Et cochon connecté, bah parce que c'est une des applications développées au CEA. On essaye de connecter les cochons en leur mettant des puces communicantes qui permettent de savoir en permanence où ils sont, ce qu'ils font, qu'ils aient leur carte d'identité intégrée. Bon. Cela étant, je pense qu'on a envie d'ouvrir un questionnement plus profond sur au-delà de certaines applications particulièrement choquantes. C'est sûr que personne n'a envie de fabriquer des composants électroniques qui servent pour les drones militaires russes. Personne n'a envie de fabriquer des composants électroniques qui servent pour les rafales, etc. Mais au-delà de ces quelques applications choquantes, je pense que la question que ça soulève, c'est celui du progrès infini, de la connaissance. C'est-à-dire qu'on a longtemps cru qu'un accroissement de connaissances, produisait mécaniquement, une société meilleure, quoi, une société plus juste, une société plus égalitaire, une société plus civilisée. On appellera ça comme on voudra, mais une meilleure société. Et or, ce qui est quand même patent depuis quelques décennies maintenant, hein, c'est que cette corrélation entre l'accroissement de connaissances et une vie en société organisée selon des principes justes, bah, il est loin d'être démontré. On voit même aujourd'hui, avec la crise environnementale, hein, pas simplement climatique, mais environnementale, à quel point le développement des activités humaines emportées par le technocapitalisme nous entraîne dans une sorte de mur environnemental. Donc, c'est pas le point central du journal. Je pense qu'on laisse les grandes questions théoriques de côté. Le but n'étant pas forcément de pousser à la réflexion philosophique, mais plutôt de pousser à l'action. Mais je pense qu'on laisse cette porte ouverte de réfléchir à en réalité de est-ce qu'on a besoin d'en savoir toujours plus sur tous les sujets, d'autant plus quand on voit les applications concrètes que ça donne.
On arrive au terme de l'émission. Pour les personnes qui voudraient se procurer le numéro 1 de Cedicium en attendant le numéro 2, on rappelle que c'est édité par Le Monde à l'envers, donc une maison d'édition grenobloise. Donc le mieux, c'est de passer directement par la maison d'édition, Le Monde à l'envers.
Il y a deux possibilités. Quiconque peut se présenter en librairie et commander le numéro 1 de Cedicium, qui est donc publié par Le Monde à l'envers et distribué par Macassar. Les gens qui rencontrent des difficultés à le commander peuvent toujours trouver le site internet de la maison d'édition et demander à en recevoir un exemplaire. On est aussi très intéressé si des personnes veulent le diffuser autour d'elles, c'est-à-dire soit dans des réseaux militants, c'est toujours possible, mais même comme on l'a fait là pour la sortie du numéro 1, si un des auditeurs de l'émission ou une des auditrices a à côté de chez lui un centre de recherche, une entreprise de la tech, on peut sans aucun problème envoyer un paquet de journaux pour que ceux-ci puissent être distribués à la sortie de la boîte. Et évidemment, si on fait ça, on le fait gratuitement.
Et puis, il y a une adresse email pour les personnes qui voudraient prendre contact. L'adresse email, c'est sedicium@riseup.net. Merci, Nicolas, pour nous avoir présenté Sedicium. Et puis, on attend le numéro 2 avec impatience. Il est déjà prévu?
On travaille à construire quelque chose avec les personnes qu'on a rencontrées lors de la sortie du numéro 1. Qu'il en soit, merci beaucoup pour l'invitation et longue vie à la presse libre.
C'était Les Hôtes de la Presse avec Nicolas pour la revue Sedicium. À la semaine prochaine, d'ici là.
Où va se diriger ton stylo ?